nous sommes le lundi 6 février 2023. Il est 20h et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission sportive favorite. Ce soir, à mes côtés, il est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize. Et ce soir, on va encore apprendre des choses. Je crois qu'il va être question de nourriture, notamment. On va voir de quoi Alexandre Demeter, salut Alex, va nous parler.
Salut Sam, bonsoir à tous.
On s'attend à des choses intéressantes,
croustillantes.
Croustillantes. Voilà, tu nous mets sur la voie, j'ai l'impression.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Bon.
Mais ça pourrait être croustillant.
Ça peut croustiller ? Bon, bah écoute, ça croustille, c'est bien. Avec nous ce soir également. Et voilà, il n'est pas avec nous en studio, mais même quand on ce n'est que par téléphone, c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. C'est la voix de la radio, vous le reconnaissez. Monsieur Didier Cohn, salut Didier.
Salut Didier.
Tout va bien Didier ? Eh oui, on voit ça sur ton arrière-plan et effectivement, voilà, nos auditeurs peuvent en profiter. On voit que tu es donc au Jan Breidel Stadium, kind of. Bon. Ce soir, au programme, on va parler bien sûr Jupiler Pro League, mais on va changer un petit peu de notre processus habituel qui consiste à passer match après match. On va mettre tout ça dans un petit débat, une petite question. On s'est interrogé sur le bilan de ce mercato pour la Jupiler Pro League. Et la question qu'on s'est posée, c'est savoir est-ce que à l'issue de ce mercato, la Jupiler Pro League s'est renforcée ou s'est-elle déforcée ? On va tenter de répondre à cette question et on verra au travers des exemples des matchs de ce week-end si effectivement nos impressions sont confirmées ou pas. On parlera également Europe, bien sûr, avec les journées de championnat qui se sont déroulées dans les divers autres championnats européens à, je vous le rappelle, 8 jours seulement des Coupes d'Europe. Donc là, il faut se remettre en ordre de marche pour ceux qui s'étaient un petit peu oubliés après la Coupe du Monde parce que les choses sérieuses recommencent. Elles recommencent dès mardi prochain. Pour Bruges, ce sera mercredi prochain. C'est parti, c'est le coup d'envoi. Et le coup d'envoi, on démarre, comme on l'a dit, avec la Jupiler Pro League. Alors, la question qu'on se posait, la question qu'on pouvait se poser, c'est à l'issue de ce mercato, est-ce que vous avez l'impression que la Jupiler Pro League, c'est renforcée ou qu'elle s'est déforcée. Avant que vous n'entriez dans le vif du sujet, je vais vous donner un petit chiffre qui va être un peu peut-être éclairant. J'ai compilé un petit peu j'ai regardé les transferts qui ont été opérés pendant ce mercato. Il y a 42 joueurs qui ont rejoint la Jupiler Pro League en provenance de l'étranger et il y en a 55 qui sont partis de Jupiler Pro League direction l'étranger. Donc il y a une balance négative, je dirais, d'un point de vue purement arithmétique au niveau des arrivées. Alors après, effectivement, je vois Alex qui fait un peu la moue. Il y a à boire et à manger, comme on dit, hein, parce que c'est vrai qu'au nombre des transferts sortants, notamment, on peut avoir beaucoup de joueurs qui sont prêtés. Donc voilà. Mais tout de même, il y a quelques transferts qui nous ont un petit peu alertés, je dirais, peut-être pas alertés, mais enfin qui nous ont un petit peu titillés, qui nous ont fait nous demander si la Jupiler Pro League s'était déforcée ou renforcée. Je vais d'abord prendre votre avis et ensuite, vous aurez le droit de développer. Je vais commencer par Didier, même s'il n'est pas là, même s'il est loin. Didier, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses qu'au vu des transferts qui ont été effectués, et je ne parle pas uniquement du club de Bruges, mais en général, est-ce que tu as l'impression que le championnat s'est renforcé ou au contraire, il s'est affaibli ? Ouais. Alex, toi, ton sentiment comme ça, à brûle pour point.
Non, c'est. Je rejoins Didier, c'est assez tôt pour.
Vous avez qu'à dire que
Pour pouvoir, non,
que
pour
ma
pouvoir
question n'est pas bonne,
estimer,
hein.
mais c'est trop tôt pour pouvoir estimer dans sa
Bien
totalité.
sûr.
Par contre, il y a des faits qui ne trompent pas. Il y a Genk qui laisse partir,
Alors voilà, parlons.
Oluwatchou, qui est leur meilleur buteur, qui est le soulier d'or l'année passée avant Simon Mignolet. Donc, de ce point de vue-là, on laisse partir des joueurs clés du championnat.
Alors justement, un joueur comme Onuachu, ça rejoint ce que disait Didier, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui vendent parce que c'est le moment de vendre. On imagine que c'est bien
Voilà.
le cas pour Onuachu parce que quand on est premier avec une belle avance, mais qu'on a le titre à viser, on se dit on va pas a priori vendre son meilleur attaquant. Mais
Mais disons que
il y a des moments où on ne peut pas faire autrement.
c'est un profil assez particulier. Tu t'attends justement, une fois qu'il a eu le soulier d'or, qu'il était meilleur buteur ou un des meilleurs buteurs du championnat, que les clubs se bousculent pour venir te le chercher. Ce n'était pas le cas. Et là, je pense Southampton qui débarque et qui fait une belle offre sur Onuachu,
On parle de 18 millions, je
dans
crois.
le bien de tout le monde, justement, c'était vas-y, t'es bien gentil, Popol,
Ouais,
mais
on
tu te
t'aime
casses
beaucoup au
maintenant.
club, mais.
Voilà. Donc, Genk se fait de l'argent. Genk s'assure quasiment d'une participation aux deux tiers à une Ligue des Champions avec ça, ce qui n'est pas sûr, car rappelons-le, en fin de saison, l'équipe championne n'est pas directement qualifiée cette année. Donc Genk, c'est jackpot. Et ils ont été cherchés à dos carré,
Ouais, ils
petite
sont
rue, comment il s'appelle?
à
Enfin
deux.
bref, oui,
Arrokodare
c'est très compliqué comme nom.
qui vient d'Amiens et Irasor qui vient, lui, du Slavia Prague, de Nigérian âgé de 22 ans.
Sort, on le connaît, c'était en début de mercato. Enfin, on le connaît entre guillemets. C'était en début de mercato. Il a déjà eu une période. Il s'est adapté. C'est un joueur qui a tout à fait un autre profil. Par contre, celui qui vient d'Amiens. Il a le profil Onuachu. Il a marqué le
Voilà.
2-3 hier soir à la Gantoise, d'ailleurs. Mais ce joueur, ils l'ont acheté 5 millions au milieu de classement de Ligue 2. Et ils l'ont chipé au nez et à la barbe d'Anderlecht, car le joueur était à Bruxelles pour visiter Anderlecht, pour signer avec Anderlecht. Je pense même que la com d'Anderlecht était en train de préparer la vidéo pour l'annoncer. Et il
Ouais.
a filé à Genk. C'était un petit coup de manager.
On appelle ça une une parque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce joueur de Monaco qui était, venu à Lille pour signer à Lille et qui est resté une demi-journée. Et on est venu le chercher. Il a pris le train de Lille à Londres et il a signé à Arsenal finalement. Ouais. À Rocco d'arrêt.
Ito.
Ito, Julia Ito. Ouais. Ouais, c'est vrai que
Il y a
c'est.
un concours de circonstances. Genk est aussi beaucoup moins, on va dire, populaire directement en Europe, comme les Bruges. Il n'y a pas de résultat comme ça. Donc, ils ont réussi à vendre des joueurs qui étaient très bons. Et il y a surtout Genk, à Courtois, De Bruyne, Ndidi, j'en passe, qui sont passés par Genk et qui ont un nom en première ligue par après. Par contre, comme tu dis, effectivement, il y a un scouting qui est bien en place. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne dépensent pas plus non plus que ce qu'ils doivent. Et pendant ce temps, ils veulent sortir des jeunes également. Et c'est ça, leur avenir et c'est ça leur business model aussi. C'est d'aller chercher des joueurs à moins de 5 millions, essayer de les revendre à plus que 10 et de former des joueurs pour les revendre cher. Et même une fois que ces joueurs connaissent une plus grande éclosion dans un autre club, d'encore choper un pourcentage au passage. Comme ils ont avec Trossard aussi, son transfert à Arsenal, ça a rapporté un bon million et des poussières à Genk.
Côté Genk, juste pour compléter, donc on a Sor, on a Haro Kodare qui viennent de l'étranger. Ils ont réussi aussi un bon coup en faisant venir Anouar Itel Hadj, ou en tout cas, c'est potentiellement un bon coup parce qu'on l'a vu depuis une bonne saison et demie apparaître avec Anderlecht, faire de bonnes choses de manière un peu irrégulière. Mais voilà, changement d'environnement, ça peut être positif pour un jeune joueur comme lui.
Il faut voir son caractère parce qu'effectivement, un joueur avec tant de talent qui est dans l'équipe première et qu'on renvoie chez les jeunes, ce n'est pas footballistiquement parlant qu'il y a eu un souci. Donc il faut voir côté comportement, côté attitude, côté hygiène de vie, côté entraînement et mentalité, tout simplement dans un groupe, comment ça va fonctionner. La mentalité à Genk est tout à fait différente qu'à Bruxelles ou à Bruges ou même au Standard par exemple. Donc. on va dire qu'il y a moins de pression. Après, Genk reste un club de province, pour ainsi dire. Ça reste une fusion pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne sont pas de cette époque. Tu avais deux clubs miniers qui étaient Waterskay et Winterslack. Je vois Sam avoir des sueurs froides
parce qu'il s'en souvient.
Donc tu avais deux clubs issus du réseau.
Tu m'as salopé ma soirée.
c'était deux clubs du réseau de mine. C'était des personnes qui travaillaient dans la mine et qui, après, ils jouaient leur match de foot. Et ces clubs étaient en D1, sauf qu'à un moment, ils étaient faillites. Il y en avait qui avaient un stade. Il y avait un tas de problèmes. Ils ont fusionné. Ils ont créé le Racing Genk fin des années 80. Après, dans les années 90, Genk est descendu. Genk est remonté. Et le public genkois est un petit peu habitué, même quand ils ont été champions en 99. Ils passent, en fait, c'est des montagnes russes. Tu passes d'être champion à avoir une Coupe d'Europe, à redescendre très très bas, c'est-à-dire à quand même à une 11e ou 12e place pour eux, à gagner une Coupe, à redescendre, à regagner le championnat, à redescendre. Et ça fait 20 ans que Genk, ou 25 ans que Genk fonctionne comme ça. Donc même dans un passage à vide comme avec Stork l'année passée, les supporters se disent, pas de problème, tout va bien se passer, tout va bien se dérouler, on va remonter. Et c'est ça qui se passe. Donc il y a moins de pression.
Est-ce que c'est inhérent justement à ce que tu décrivais, c'est-à-dire que, et ce que décrivait Didier, dès lors qu'on n'attend pas des grands noms nécessairement, alors il y a moins de pression, mais du coup on va forcément sur des joueurs qui certes ont été peut-être bien scoutés, mais qui sont par définition moins reconnus et peut-être moins talentueux finalement, et donc ça fait qu'on connaît des périodes très bonnes quand le joueur qu'on vient de recruter ou les joueurs marchent bien, et puis quand on s'est un peu plus trompé, on descend un peu, la descente est plus rapide en tout cas.
C'est pas une question de qualité, c'est une question d'adaptation et d'équipe et de formation. Tu as des joueurs qui ont beaucoup de talent, mais des joueurs qui ont beaucoup de talent, il y en a énormément. Sauf qu'à Bruges, à Anderlecht, tu es un joueur avec énormément de talent. Si tu n'as pas de nom, tu dois prester immédiatement.
Oui,
on a vu Noah Mbamba, par exemple, à Bruges. Ce joueur a énormément de talent. Ouais. Sauf qu'on s'attend que dans les 20 premières minutes, il explose déjà. Non. Un joueur a besoin d'être dans l'équipe, de s'acclimater, d'avoir, comme on disait la semaine passée aussi, de connaître le rythme, de connaître le passing, la stratégie, la tactique. Et ça, à Genk, ils mettent du temps à construire tous ensemble. Mais force est de constater que les Rovski, des Heinen et d'autres joueurs, ils jouent ensemble, ils évoluent ensemble, ils deviennent grands ensemble, et puis ils vont chacun de leur côté. Et c'était le cas avec Stroupa, Roulare, Good Johnson à l'époque. Mais c'était Delbrouck qui était le numéro 6, plus personne ne sait qui c'est. C'était le cas par après avec Beslichas, Coco, Theis, Sonk, Dagano. Et après, tout le monde est parti de son côté aussi.
Ouais.
À Guingamp, je te vois rigoler, Sam. C'était la même chose avec la génération De Bruyne, Courtois aussi. Et c'est un éternel recommencement, une éternelle conjoncture limbourgeoise sur des périodes de 4 à 6 ans.
Oui, c'est le rythme du cycle. Effectivement, quand on est supporter limbourgeois, on s'attend peut-être plus à ce genre de haut et de bas qu'un supporter d'Anderlecht ou du club de Bruges.
Maintenant, ça, c'est Genk. Il y a d'autres équipes. Comme on parlait là tout de suite de Zulte Waregem de Seraing. Zulte Waregem a acheté beaucoup, Courtrai a acheté beaucoup, Seraing n'a rien acheté. Aujourd'hui, on est 4 matchs plus tard que par rapport au début du mercato. Seraing est revenu bizarrement dans la course. Et la semaine prochaine, ils seront de nouveau un cran plus bas. Chaque équipe a vraiment sa particularité. Et si on fait équipe par équipe, Saint-Tron, par exemple, ils sont sauvés. Ils n'en ont, pour ainsi dire, vraiment plus rien à faire de la saison. Peut-être terminer dans le top 8, même si ça paraît utopique. Ils ont laissé partir Bruls pour toucher encore 200 000 ou 250 000 euros, parce que sinon, il était libre en fin de saison.
C'est ça.
Donc le mercato, est-ce que c'est d'un point de vue financier? Est-ce que c'est d'un point de vue sportif? Est-ce que c'est d'un point de vue arithmétique, donc le nombre de joueurs? Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte pour dire est-ce que c'est raté? Est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est plus fort ou déforcé?
Alors, venons-en peut-être à un... À Anderlecht, parce que ça reste un des animateurs du championnat. Il y a eu pas mal de départs, et le plus retentissant de tous, c'est bien sûr celui du plus jeune joueur du championnat, Julien Duranville, qui est parti pour 8,5 millions, on dit à peu près, au Borussia Dortmund. On rappelle que ce joueur a joué 3 matchs, qu'il a été très impressionnant et qu'on était très content de le voir apparaître en Jupiler Pro League. Et que malheureusement, et là on sait que c'est sans doute une raison financière qui pousse Anderlecht à vendre le joueur. Malheureusement pour les supporters mauves, ils pourront jamais, ou en tout cas pas dans l'immédiat, futur immédiat, profiter du talent de ce joueur. C'est rageant, mais voilà, c'est vrai que c'est ce genre de transfert qui m'a fait me poser la question de savoir est-ce qu'on s'est renforcé ou déforcé. Bon, lui, on n'a pas eu le temps de voir, en fait. C'est même encore plus frustrant, on n'a pas eu le temps de voir.
Tout le monde s'accorde à dire que Duranville a beaucoup de talent. Est-ce que ça va se traduire dans une grande carrière? On pense à Charlie Musonda. On ne sait pas ce qu'il en devient non plus. Mais ici, à Anderlecht, tu es dos au mur. Tu as une nécessité financière. Ils ont été chercher plus ou moins 10 millions avec leurs deux jeunes qu'ils ont vendus. Ils en ont cruellement besoin, à Anderlecht.
Didier, oui. Oui, moi je pense qu'il faut aussi toujours se méfier de ce que disent les joueurs, et notamment ils ont une phrase sur la dureté des entraînements, je reviens pas là-dessus, mais il y a souvent une phrase lorsqu'il y a un transfert, le type arrive dans un nouveau club et il dit cette phrase extraordinaire: « Ah, mais quand j'ai visité les installations, alors là c'est ça fait toute la différence ». Non, mais je veux dire par là qu'il y a, pour le coup, j'imagine bien que les entraînements de Chelsea devaient être d'une autre intensité que ceux de Genk. Ouais. Ouais, ils ont dû. Oui, bon, à son âge, on peut penser que sa formation n'est pas encore totalement achevée. Bon, après, on verra, c'est ses qualités intrinsèques, mais il devrait avoir en tout cas, la préformation qui lui servira à pouvoir encaisser les charges de travail qui.
Il va continuer sa formation avec
Voilà.
Dortmund 2, c'est tout.
C'est pas mal. Ah, les piqûres, ça, c'est, y a rien de tel. Hein. C'est pas la Juve non plus. Ouais.
Ça ne va pas te rajeunir, mais c'était il y a 20 ans déjà. Mais non, je suis assez d'accord, Didier. Mais après, tu vois beaucoup de jeunes quitter le championnat. Et ça, c'est un signal assez négatif aussi. Alors qu'un Duranville parte à Dortmund, pas encore. Mais tu as Salah de Gand qui a joué 5 matchs à tout casser, je pense, en Jupiler Pro League. Lui, il est parti à Rennes. Donc Rennes, ok, est une belle équipe française. Ils jouent le haut du classement. Ils ont gagné la Coupe de France les 5 dernières années. Mais c'est pas. Je trouve que des équipes belges ou même la Gantoise devraient le garder encore plus longtemps, ou bien le vendre à Rennes et le garder jusqu'en fin de saison ou quelque chose comme ça. Parce que là, tu donnes un très mauvais signal à tous tes jeunes. Les Mbamba qui partent à Leverkusen, les Salah qui partent à Genk. C'est une mode qui s'installe. Des joueurs qui ont relativement peu joué, ben, ils partent directement. Non, mais j'ai envie de dire, et je pourrais en faire presque une généralité, tout est une question de pognon, hein.
Oui, il
Donc
faut
oui,
toujours se
après,
souvenir que les joueurs veulent mettre leur famille à l'abri.
tu as des jeux de manager aussi dans ce genre de cas. On sait très bien qui est le manager ou l'agent de joueur qui décide de beaucoup à la Gantoise, par exemple. Après, je ne sais pas si c'est lui qui a fait le transfert, je ne pense pas. Mais il y a tout ce mécanisme et tout ce petit jeu derrière aussi. Et beaucoup est une question d'argent. Donc c'est un joueur qui a un contrat, parce que des joueurs comme Salah, et tout le respect qu'on a pour lui, ce qu'il gagnait à Gand était relativement très très peu. Tu vas à Rennes, tu es dans une autre dimension. On n'est pas dans 2 fois plus ou 3 fois plus. On est dans des 10, 15, 20. Donc, tout ça fait que même la famille ne s'est pas résistée et se met effectivement un peu à l'abri financièrement par rapport à ça. Après, les clubs, pardon, devraient faire plus pour garder ce type de joueur. C'est une clause de revenir jouer les 6 derniers mois en prêt. C'est éventuellement même près d'un an et demi. Ça se fait aussi actuellement. Donc, ce genre de choses doit être songé parce que finalement, tous tes jeunes vont partir de plus en plus vite et de plus en plus tôt. Et tu ne pourras pas, en tant que championnat, te développer. Tu ne pourras pas cacher l'argent espéré, souhaité, hors frais de formation. Parce que ça joue aussi en fonction des barèmes. Mais donc, en tant que club, tu y perds énormément. Même si ton joueur ne jouera achever sa formation, avoir des minutes en équipe première et partir après, ça reste plus intéressant après s'être prouvé qu'après 5 matchs.
Parce que
Ben, si tu prends Duranville par exemple, il a moins de 18 ans déjà pour commencer et il n'a pas de contrat. Donc les clauses libératoires sont un peu en adéquation avec le contrat aussi.
Oui, les clauses libératoires, c'est vraiment c'est un accord entre le club et le joueur. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, puisqu'on ne peut pas forcer la volonté d'un joueur, on ne peut pas le faire signer ailleurs, on ne peut pas lui tenir la main pour lui dire tu signes ton contrat. Par contre, le club se met d'accord avec lui en disant, mais par contre, s'il y a une offre à X, 100 millions d'euros, 50 millions d'euros, peu importe. Là, tu n'as plus le choix de refuser. Si quelqu'un vient et paye cette clause, tu pars automatiquement. Mais c'est vrai qu'il y a des mécanismes de prêt. On a vu par exemple Malo Gusto de Lyon qui est acheté par Chelsea, par le gargantuesque Chelsea. Ils l'ont acheté donc là pendant le mercato et ils le laissent à disposition de Lyon jusqu'à la fin de la saison. C'est vrai que c'est une bonne formule pour le joueur, pour qu'il puisse arriver aussi dans un bon moment, parce que arriver au mercato, c'est moins facile que de faire la préparation avec toute l'équipe.
Ah, je pense qu'arriver au mercato à Chelsea, c'est comme prendre le métro à 8h20 le matin.
Ah ouais. Surtout actuellement, bah, si vous cherchez des postes triplés, bah, il faut aller à Chelsea où ils doivent avoir 45 joueurs sous contrat. C'est assez incroyable. Il y a un transfert sur lequel on va s'arrêter parce qu'il le faut. C'est le seul transfert sortant de nos petits chouchous de la Royal Union Saint-Gilloise. C'est Dante Van Zer qui est parti au New York Red Bulls. Ton sentiment, Alex, autant on disait avant, sans citer de nom, parce qu'on a peut-être pas, on aurait peut-être tort. Il y a des joueurs qui partent pour l'argent, il y a des joueurs qui partent pour le développement. Dante Van Zer, tu penses qu'il est dans quelle catégorie ou est-ce que c'est une troisième catégorie? Moi, je pense qu'il a peut-être fait un peu le tour en Belgique et il a une belle opportunité dans un chouette championnat.
Ouais. Pour connaître Dante, il est un petit peu fou. C'est quelqu'un qui est
c'est ça, ouais,
qui aime les surprises, qui fait des surprises, qui fait des blagues, des pranks, etc.
Je le vois un peu
à longueur de journée. C'est vraiment quelqu'un de
à la Juniac un peu. Je le vois, c'est-à-dire se dire, j'ai l'impression que c'est, il a la passion du vraiment la passion du ballon et
oui,
que de la même manière que Juniac s'est dit bah ça va être génial, je vais être au Mexique, on va m'adorer, peu importe si c'est pas le top niveau, si c'est plus le top niveau. Bon, la seule différence, c'est qu'il a 25 ans seulement, Dante Van Zer, mais je le vois bien effectivement
il
être...
Il a commencé très très jeune aussi, hein, attention.
Ouais.
Il a commencé à 16 ans à Genk, il était à la Coupe du Monde au Chili il y a 10 ans aussi. Donc il est... Mais c'est un joueur un petit peu fou, enfin c'est une personnalité un petit peu fofolle comme ça, qui aime bien, qui aime être surpris, qui surprend les autres. Et donc, je pense qu'il a compris lui-même qu'il n'y a pas de top club en Belgique qui va venir le chercher lors de ce mercato, ni lors du prochain mercato, pour diverses raisons. C'est un attaquant assez atypique aussi.
Ouais.
Et puis, tu as New York, tu as l'American Dream, tu as un championnat MLS, parce que personne ne parle de la MLS. Mais c'est quand même, en termes de spectateurs, le cinquième championnat au monde, devant la Ligue 1 en moyenne.
Ouais.
Tu vas jouer à Charlotte dans un stade de 90 000 places. Tu vas jouer à Atlanta, où il y a 78 000 personnes dans le stade. Tu vas aller partout en Amérique dans un championnat particulier. Mais surtout pour Dante, sportivement parlant, c'est un championnat où il y a plus d'espace aussi.
Ouais.
Et c'est quelque chose qu'il affectionne particulièrement. Donc, être en Belgique, aller jouer en Hollande, à Vitesse Arnhem, rester à l'Union, aller, parce qu'en Belgique, à part la Gantoise, je ne sais pas trop, peut-être à l'Antwerp, enfin, on est dans l'hypothèse où est-ce qu'il aurait été.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je
pense que faire le pas d'aller vers New York, je pense que ça coche différentes cases intéressantes, et je pense qu'il va foncièrement s'amuser aussi.
Ouais.
Et tout en gagnant de l'argent, tout en étant potentiellement une des stars du championnat aussi.
Ouais.
Je pense qu'il a toutes les capacités pour l'être. Et surtout pour Red Bull, New York, se remettre un petit peu sur la carte parce que
oui,
financièrement et sportivement,
ils ont été dépassés. Ouais.
C'est pas la joie. Où autrefois ils étaient un des leaders de leur conférence et où financièrement c'était une équipe les plus performantes, ils se font dépasser par Charlotte qui est en MLS depuis un an et demi, par exemple. Donc.
Oui, c'est un championnat intéressant, comme tu le dis. Sans doute, ça va sans doute très bien lui convenir de jouer là-bas. Et ce sur quoi j'aimerais revenir, et après je te donnerai la parole, Didier, c'est que certains joueurs gagneraient à justement se sortir un peu du cercle, enfin du, comment dire, du circuit habituel, c'est-à-dire que vous êtes un bon joueur d'un bon championnat, mais vous n'avez pas de top offre. Alors si c'est pour aller se terminer, passez-moi l'expression, mais sur le banc à Herenveen ou je ne sais où, alors il vaut mieux prendre son courage et se dire je vais aller dans un environnement tout à fait différent, mais où je vais bien gagner ma vie, où je vais être devant un public, parce que comme tu le dis, il n'y a pas 90 000 personnes à tous les matchs, mais il y a du public, il y a du monde, ça joue et c'est sympa, mais c'est peut-être un petit peu plus excitant que d'aller dans un club moyen où on ne va pas être nécessairement titulaire, mais on est dans une ligue considérée.
Mais attention, comme tu es en Amérique, hein, tu n'es pas, t'es pas au Qatar, tu n'es pas en Inde,
ouais.
Tu n'es pas en Arabie Saoudite, tu n'es pas au Wydad Casablanca non plus, donc en MLS. Après, tu ne vas pas en MLS pour gagner énormément d'argent. Je m'explique, il y a beaucoup d'argent évidemment, mais après il y a des salary cap, sauf pour certains joueurs qui peuvent les dépasser.
Voilà.
Donc salary cap, c'est un plafond financier pour tous les salaires et le club ne peut le dépasser sous peine de sanction ou d'exclusion de la ligue. Donc il y a tout ça qui joue, sauf 2-3 exceptions, comme on l'a dit. Gareth Bale par exemple l'année passée était une de ces exceptions, typiquement américaine évidemment.
Oui, je crois qu'ils avaient inventé ça sans doute pour Beckham, enfin
ça date. Mais je pense,
et après juste après Didier, tu veux...
Non, je pense qu'il va s'amuser, je pense qu'il a tout en main pour faire quelque chose là-bas. Et après, ça n'empêche jamais un Dante Van Zer de revenir, il va pas perdre son talent, sa vitesse, un tout petit peu peut-être avec l'âge, mais en deux ans d'MLS de New York, la question est quelle porte ça va lui ouvrir après, mais je pense que les portes qui sont ouvertes maintenant ne seront pas nécessairement fermées dans 2 ou 3 ans non plus.
Didier, ton sentiment ? Ah, c'est le sport normalement numéro 5, derrière le baseball, le football, le basket et le hockey. Ouais.
Oui, tout à fait. Pour la Coupe du Monde, je suis assez d'accord. Après, on l'a déjà dit aussi, la consommation du sport et du football ou soccer en Amérique est tout à fait différente. Comme on disait Genk là tout de suite, tu n'as pas cette pression malsaine comme à Anderlecht dans les clubs américains. Bon, il y a des LAFC, il y a des New York City Football Club, où il y a une pression de devoir prester parce qu'il y a de gros investisseurs derrière et que c'est une machine assez méchante qui tourne. Mais de ce côté, même si Red Bull a quand même des ambitions d'à chaque fois de terminer dans les playoffs et le plus haut possible, si pas la finale, quand même les demi-finales, ce n'est pas rien non plus en Amérique parce que tu peux survoler ton championnat régulier, tu peux être premier de ta conférence, donc il y a l'Ouest et l'Est et l'Ouest, donc les deux conférences, tu peux terminer premier avec un maximum de victoires et pourtant être éliminé en quart de finale. Donc tous ces facteurs, là, il n'y aura pas une grosse pression pendant la saison, pendant les playoffs un peu plus intra-club, mais côté supporter, il n'y a pas toute cette haine d'aller au standard, de se faire siffler pendant 90 minutes, d'aller sur des terrains comme Serein, on l'a déjà dit aussi, avec tout le respect que j'ai pour eux, je les aime beaucoup, tout le monde le sait. Tu n'as pas tout ça là-bas non plus, donc il va vraiment profiter, il va augmenter sa qualité de vie aussi, j'ai l'impression.
Exactement.
Ben c'est les rois du monde, je suis désolé. Quand tu vois les stades qui ont été construits et qui vont encore être modifiés pour la Coupe du Monde. Franchement, j'invite tout le monde à voir le stade d'Atlanta. C'est 75 000 personnes, si je ne me trompe pas, ici peut-être 72. Ce stade est au top de la technologie, avec un toit rétractable, pelouse aussi, qui est modifiable dans tous les sens possibles et imaginables. Tout est pensé dans les moindres détails, dans des enceintes énormes comme ça. Oui,
Oui.
après, c'est des stades multifonctionnels. C'est pas des stades. Il y en a certains qui sont dedicated au football, mais je reprends l'exemple de Charlotte, par exemple. C'est pas un stade de foot, c'est un stade de football américain qui est utilisé pour du soccer en même temps, pour des concerts, pour tout ce que tu peux t'imaginer. Mais je rebondis rapidement sur ce que tu disais. Pour l'Euro 2000, la Belgique a eu l'occasion de se réinventer, de moderniser ses stades et ou d'en construire et de faire quelque chose de décent. Ils l'ont pas fait. Le Portugal l'organisait 4 ans plus tard. Les stades au Portugal ils sont up-to-date aujourd'hui. Ils accueillent le Final Four de Ligue des Champions il y a 2 ans ou 3 ans. Et eux, ils ont réussi.
N'en parlez pas non plus.
Eux, ils ont réussi à faire des choses très intéressantes. En Belgique, on a complètement loupé à nouveau notre projet. Et quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé avec Bruges de nouveau la semaine passée, que ce stade va encore être retardé parce qu'il y a encore des problèmes et il y a entre-temps. Parce que quand Bart Vrag me l'avait dit, et c'était en 2013, donc c'était il y a 10 ans, il y avait déjà 2 camions pleins de dossiers et de paperasses pour le stade. Et, c'était, ça datait de 7 ans. Donc là, je pense qu'on est à 5 camions et demi. Hein.
Alors, si ça peut vous rassurer, 2 ans seulement avant l'Euro 2000, il y a un pays qui n'a pas de division linguistique ni rien, qui organisait une Coupe du Monde, qui a réussi à faire un nouveau stade qui était vieux dès le moment où ils l'ont inauguré, le Stade de France, qui n'est pas vraiment un stade de football. C'est-à-dire qu'ils ont construit un vieux stade en l'an 2000, ils ont réussi à construire un stade qui était déjà vieux. Et le pompon, c'est pour nos copains de l'Olympique de Marseille qui ont refait leur stade donc quasiment à neuf. On se souvient, avant, c'était un vrai vélodrome avec sa tournée. Puis là, ils ont fait un stade, on aurait dit une tulipe avec des pétales qui montaient vers le ciel. Et donc, du coup, on se plaignait du bruit. Il n'y avait plus de bruit puisque tout s'envolait. Et puis, depuis, ils ont refait le stade. Donc, donc en France aussi, des champions de
là,
la conception de...
Mais là, tu es champion de la médiocrité et de l'imbécilité en Belgique. C'est ça le problème.
Excusez-moi,
c'est ça la différence.
On peut pas, on lutte pas ça.
Non, mais pour une fois, on réussit quelque chose. C'est comme Didier le dit, c'est tout raté.
C'est vrai. C'est.
Il y a pas d'ailleurs. Maintenant qu'on fait la brève parenthèse, l'Union veut construire un stade.
C'est pas encore. Ouais.
Écolo Forêt, je les vois pas céder. Ça, c'est incroyable. Et à Bruges, ça fait depuis 2006 qu'on essaie de construire un stade. C'est pas possible. Les 70 dernières années, il y a 2 stades qui sont construits en Belgique. C'est le stade de Bruges actuel qui est vétuste, qui est tout à fait. Foutu aujourd'hui, que tu ne sais même plus utiliser.
Et la
Guelamco de Gand sur un terrain parce que les socialistes gantois ont magouillé quelque chose et qu'il y a eu un sale et leaseback d'un terrain pour 1 euro. Tout le reste, il n'y a aucun stade qui s'est construit. Tout est sur le site propre. Le Standard, il joue sur leur terril depuis plus d'un siècle aussi.
Didier, oui. Ouais.
Ah mais.
Ouais. Oui, et puis c'est beaucoup plus important pour le football quand même.
Mais ça, tu dis ça, Didier, mais il ne faut pas oublier que la Belgique devait organiser le match d'ouverture qui a été délocalisé à Rome à cause de nos politiques qui se sont lamentablement vautrées, ridiculisées et amoindries tout seul devant la terre entière. Et ça, c'est encore pire que ce que tu disais. Fatalement, puisque nous, on passe à autre chose, mais les politiques ne passent pas à autre chose, parce que le copinage fait en sorte qu'il y a un tas de personnes qui ne sont pas élues, qui sont à des positions clés, qui ont un pouvoir décisionnel, et on ne va même pas citer les partis, mais tout le monde sait à qui je fais référence, et qui restent là, et qui sont tranquillous de mandat en mandat, qui ne se passe strictement rien de bon. Il n'y a que du mauvais, il n'y a que des scandales qui éclatent, et pourtant, ils restent en position parce que c'est du copinage.
On va arrêter, laisser la plage politique là, parce que sinon, on va...
C'est pour une autre émission.
Ah ouais. Allez, on va vraiment arrêter parce que les politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, du nord ou du sud, on aura toujours quelque chose à dire. Restons sur le football, juste. On va faire une petite pause, on va parler un petit peu marketing et après on reviendra parce qu'il y a quelques départs de Jupiler Pro League sur lesquels j'aimerais bien qu'on passe quelques instants. Mais donc, avant cela... Je vous propose que on passe à la minute Sportimize. Monsieur Alex, j'ai l'impression qu'on va parler nourriture. Qu'est-ce que tu vas... Tu nous as préparé une recette ?
Oui. Je savais que tu avais un petit creux pendant l'émission, mais on va parler un tout petit peu de nourriture. On va surtout parler de naming.
Oui.
Et c'est quoi le naming ? Le naming, c'est un club qui possède un stade ou qui loue un stade et qui attache les services d'un sponsor et le nom d'un sponsor à ce stade. Et on vient à la nourriture parce que la semaine dernière, j'étais quand même très surpris en me levant le matin et en voyant que Saint-Tron avait un partenaire naming pour son stade et c'est Daiyo Wasabi.
Ah.
Fatalement japonais.
Forcément, oui.
J'étais d'autant plus surpris de voir l'annonce du club qui se comparait à Barcelone avec un naming de stade. Et après, j'ai lu que finalement, les valeurs du club étaient proches des valeurs du Wasabi et du Japon, parce qu'on sait très bien que les propriétaires de Saint-Tron sont des Japonais qui d'ailleurs mènent très très bien leur barque en Belgique, il faut le dire, que ce soit côté arrivée, côté transfert, côté développement, c'est magnifique. Mais après, je me dis, tu ramènes du Wasabi, tu vas peut-être activer ça avec de la compote au Wasabi, mais les supporters ne vont pas aimer. Et effectivement, les commentaires étaient très 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 négatifs.
Il y a un côté rejet d'un produit qu'on consomme peu ou c'est pousser le bouchon un peu loin que d'associer le nom d'un stade à un produit, à une marque étrangère vraiment pas implantée, je dirais, en Belgique.
Disons que c'est le nom qui fait un petit peu rire, surtout le fait que Stadion reste un terme culte dans le football belge et certainement à Saint-Tron. C'est leur fierté, c'était leur stade en bois jusqu'il y a quelques années où tous les grands se cassaient la gueule en fait, parce que c'était une ambiance d'enfer, impossible à jouer. Et tu associes ça à du Wasabi, bon, ça passe pas super. Par contre, j'ai un peu recherché. Et j'ai remarqué qu'il y a d'autres stades qui ont également ou qui avaient également un partenaire naming dans la nourriture. Donc, on a eu le Kit Kat Stadium à York, en Angleterre. On sait que Nestlé a été implanté là-bas et en tout cas, là, une base du chocolat anglais se trouvait à York il y a plus d'un siècle. À Livingston, en Écosse, on a la Tony Macaroni Arena, qui est une pizza locale avec une chaîne écossaise. Et j'ai remarqué aussi qu'en Nouvelle-Orléans, les Pelicans en NBA jouent dans la Smoothie King Arena.
Eh ben.
Donc de quoi avoir faim.
Exactement.
Par contre, pour en revenir, le naming, c'est assez essentiel. Et surtout comme pour un club comme Saint-Tron, on sait que leur sponsor maillot et leur sponsor, je dis au pluriel, parce qu'ils en ont plusieurs, viennent du Japon. Proportionnellement, Saint-Tron est dans le top de la Belgique pour ses entrées financières et grâce à du sponsoring. Donc on s'imagine que le Wasabi va également suivre cette tendance et ça permet au club de se développer. Ça permet à nos amis japonais également d'aller chercher d'autres pépites japonaises qui vont revendre en Europe comme ça a déjà été le cas.
Il y a d'ailleurs un joueur qui est arrivé à Saint-Tron, Taishihara, qui vient de Alaves, donc un nouveau. Il y a un entrant et il y a un sortant. Tu nous en avais parlé l'année passée tant il avait fait exploser les compteurs. Mmh. c'est Shinji Kagawa.
Il est parti.
Il est parti, voilà. Et je me souviens que tu nous avais étonné en nous rapportant qu'il avait, si je ne me trompe pas, plus de followers que Saint-Tron, que son club.
Oui, mais que toute la Belgique, en fait, que tous les clubs réunis. Mais par contre, pour terminer sur ce sujet naming, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais un stade ou une marque qui a plusieurs stades dans le naming?
Oui. Oui, est-ce que Nice est toujours sponsorisé par le même? C'est Allianz.
Voilà, donc Allianz. C'est Allianz qui possède énormément de stades.
Je pense à l'Allianz Riviera et l'Allianz Arena.
Ouais. L'Allianz Arena de Munich. On a l'Allianz Riviera à Nice, très beau stade d'ailleurs. On a la Juventus qui a ça aussi. On a St. Paul dans le Minnesota qui est Allianz. On a Sydney, on est à Vienne et on a encore un stade au Brésil également au nom d'Allianz.
Eh bien, on avait découvert le naming il y a quelques années. Il y avait eu quelques supporters, quelques suiveurs du football qui étaient absolument contre. On a vu que ça s'était imposé, que la plupart des stades maintenant portent le nom d'une marque. Et maintenant, c'est les marques qui SM.
La plupart, sauf Hambourg. Parce que Hambourg, ils avaient leur stade traditionnel, le Volksparkstadion. Après, ça a été repris par AOL, ça a été repris par d'autres marques entre 2001 et 2015. Et depuis 2015, les supporters ont même créé une pétition pour s'opposer au naming de leur stade parce que c'est le Volksparkstadion. Ça reste le Volksparkstadion. Et depuis 2015, Hambourg refuse des partenaires naming pour son stade qui est quand même un des plus grands d'Europe.
Eh bien, je suis tout à fait à fond derrière les Hambourgeois puisque en tant que supporter parisien, on a la même position. Le Parc des Princes n'est pas encore... enfin c'est le Qatar il y a le Qatar qui tient le club, ça c'est autre chose, mais le nom du stade reste le Parc des Princes, là où coucou à Blaise, c'est l'Orange Vélodrome à Marseille.
Sans mauvais jeu de mots, à Paris on peut dire que tu n'es pas d'accord, c'est un jeu de mots sponsoring.
Non, j'étais pas d'accord l'an passé, jusqu'il y a un an et demi. Et bien merci pour ce moment Sportimize. Alors, je voulais qu'on revienne sur le bilan mercato de la Jupiler Pro League avec quelques joueurs. Juste pour le petit clin d'œil, c'est amusant. Dante Van Zeer s'en va et qui revient en Jupiler Pro League de Sochaux à Charleroi, c'est Valentin Ozornoifort qui n'a pas laissé une trace indélébile dans le championnat, sauf peut-être effectivement pour Dante, puisque c'est avec lui qu'il avait eu maille à partir et qu'il avait donc pris une carte rouge et une expulsion qui l'avait laissé 5 matchs qui avaient mis un peu en l'air sa saison.
Après, Valentin est revenu après l'annonce de Dante. C'est peut-être lié.
Parmi les joueurs qui quittent, bon, Nainggolan, on va le laisser de côté parce qu'on ne peut pas dire que sur ce qu'il a apporté, il a été pas mal sur quelques matchs au début, puis beaucoup moins bien. Donc, est-ce que ça déforce la Jupiler Pro League? J'en suis pas sûr. Il y a les deux jeunes d'Anderlecht, mais on a bien compris que ce n'était pas le moment pour deux jeunes, Esposito et Silva, de s'imposer là-bas. Et il y a des joueurs qui ont marqué les dernières années, je dirais, de Jupiler Pro League. Hein. Golizadeh, par exemple, de Charleroi, qui après 128 matchs, 20 buts, 23 assists, quitte Charleroi pour la Turquie. Il y a Raphaël Holzhäuser, qui était au Berscott, qui était à Louvain, et qui donc quitte le club pour aller en Allemagne. Et puis, on ne peut pas passer sous silence l'un des héros de cette émission, Didier Lamkelze, qui quitte donc définitivement la Belgique et il va au Maroc, il me semble, où il date Casablanca. Maintenant, j'ai une question.
Ouais, après, il ne faut pas oublier, du côté du Standard, il y a deux grosses pertes aussi.
Au Standard, bien sûr, il y a Raskin et il y a Amala qui partent tous les deux. Raskin, d'ailleurs, le montant qui a été annoncé semble un peu assez ridicule. Enfin, moi, de ce que j'ai lu, c'est 1,5 million pour un joueur qui... Il réussit pas tout, mais enfin, c'est un joueur qui était très bien considéré. 1,5 million, ça fait pas beaucoup.
Non, c'est une très très bonne pioche des Glasgow Rangers.
Ouais.
Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis comme ça. Quand tu vois, par exemple, à Bruges, Kyle Lerin,
oui.
Il a quitté le club, il est parti à Valladolid. Ça fait une semaine qu'il est en Espagne. Il a déjà marqué deux fois plus que quand il était à Bruges.
C'est vrai. Parlant de Bruges, tiens, Didier. Et voilà, et Sobol. C'est ça, j'allais y venir. C'est quand même un joueur qui chiffre 74 matchs de Jupiler Pro League, 41 buts, 7 assists. C'est en ça qu'il y a quand même des joueurs. Alors bien sûr, on va sans doute avoir des nouvelles, des joueurs qu'on ne connaît pas qui vont exploser en Jupiler Pro League. Mais ceux qui s'en vont sont des joueurs qui ont des références quand même importantes. Si on pense à Frey, à Onuachu, à Vanzer, Holshouser aussi dans une moindre mesure, mais il avait quand même bien...
Il avait été leader des assists l'année passée.
Ouais, ouais, il avait ravi tout le monde avec la finesse de son jeu. Golidzadeh, qui était les montagnes russes, mais qui est capable de... qui a un talent fou dans les pieds, qui va donc quitter. Il y a Hout, puisqu'on lui dit juste au revoir, on n'a pas rien de particulier. Et j'avais une question, justement, pour... vous deux qui êtes brugeois, c'est le retour de Jack Hendry. Jack Hendry, il était prêté en Italie, me semble-t-il, non ?
Cremonese. Il était prêté à Cremonese, mais je vais peut-être vous donner un scoop, vous ne l'avez pas lu ou entendu. Apparemment, Jack Hendry a commis la petite erreur l'année passée de draguiller la femme de Karl Hufkens. Et fatalement, quand Karl Hufkens est devenu T1, il y avait un petit souci entre les deux messieurs. Mais c'est l'entraîneur qui a gagné, et donc Jack Hendry n'a pas joué, ou pour ainsi dire, très 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 peu, et il n'y avait qu'une solution, c'était essayer de le refourguer au premier venu. Comme Cremonese était arrivé, qu'ils ont pris Okereke, qui d'ailleurs a mis un but splendide contre l'Inter la semaine dernière, et Jack Hendry faisait partie du pack, il est parti avec, et là, une fois que Karl Hufkens est parti de son poste à Bruges, et que Cremonese n'attendait rien de plus que d'Henry, un Écossais en Italie, je n'ai pas de souvenir que ça réussit énormément, mais du coup, il est revenu à Bruges parce que Scott Parker avait besoin d'un défenseur central. Donc ça, c'est ce qui se dit dans les couloirs.
Eh ben, comme quoi, il y a effectivement des... Tu vois, Didier, on se demandait s'il y avait l'ambition sportive, s'il y avait l'appât du gain qui étaient les seuls moteurs pour être transféré. Il y a aussi le fait de dragouiller la fiancée ou la fille de son coach. Ça fait parfois...
Bon, après, il y a un consultant TV très connu qui a fait la même chose avec Eric Guéret en 97, 98, 99. Donc,
Il y a un ou deux joueurs...
Bon, tout le monde le reconnaît.
Et il y a des joueurs qui ont, semble-t-il, peut-être même pas, discuté d'un peu trop près avec la femme d'un sélectionneur français et qui ont loupé les Coupes du Monde auxquelles ils auraient pu participer. Un grand sélectionneur français dont tout le monde se souvient, bien sûr. Salut Raymond, si tu ne nous écoutes pas. C'est vrai. Et alors, on va finir parce qu'il reste sur le cancan. C'était lorsqu'il était à Nantes. Claude Makélélé était tout jeune. Et Jean-Claude Suodo était donc Coco Suodo, la légende. Ils vont dans les douches après. Puis visiblement, Claude Makélélé est plutôt... la nature l'a doté d'un appareil impressionnant. Et Coco Suodo fait une blague en disant sa copine qui doit être contente. Sauf que Coco Suodo ne savait pas que sa copine en question, c'était sa propre fille. Ça, quand il l'a appris, ça a légèrement tendu leur relation. Mais voilà. Exactement. Bon, écoutez, on a fait le tour, je pense, de la question, même si on aurait bien sûr pu parler d'autres joueurs, mais je crois que pas. Je crois qu'on a vraiment, survolé tous les transferts importants qui ont eu lieu lors de ce mercato. Merci Alex, merci Didier. Je vous souhaite à tous les deux et à tous nos auditeurs une excellente semaine. Soyez en forme parce que la semaine prochaine, c'est la Coupe d'Europe qui reprend. Hein. La semaine prochaine, lundi, on se retrouve. On va parler du programme, des programmes de la Ligue des Champions, avec notamment Bruges, le club de Bruges qui recevra au match aller le Benfica Lisbonne. Gros test pour les Brugeois et on est impatient de retrouver la Ligue des Champions et sa petite musique. Alors je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et à tous. Salut Didier, salut Alex.